Présente dans 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé complète et efficace où que vous soyez. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Cheveux secs ou plutôt gras, chevelure frisée ou lisse, tignasse abondante ou calvitie, de beaux cheveux, une coiffure soignée, c'est un sujet de préoccupation pour celles et ceux qui sont attentifs à leur apparence physique. Mais on se préoccupe souvent, au-delà bien sûr des considérations esthétiques, de notre santé capillaire. Lorsque nos cheveux vont mal, lorsqu'ils tombent par poignées, lorsque le cuir chevelu démange ou encore en présence de squames. Les facteurs qui entraînent ces problèmes de cheveux, ces atteintes plus ou moins définitives, sont aussi nombreux que variés. D'où la recherche d'explications pour comprendre ce qui se passe sur notre tête avant de trouver le traitement adapté, shampoing, lotion, de comprendre par exemple si ces problèmes de cheveux sont liés à une maladie ou à l'usage de produits ou de techniques de coiffure agressives. Et dans ce cas, réfléchir à changer certaines habitudes qui, au nom de la mode, maltraitent les cheveux et menacent ni plus ni moins l'intégrité capillaire. La santé des cheveux, pour en parler avec nous en studio, le docteur Philippe Assouli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue spécialiste du cuir chevelu au centre Sabourot de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Sénégal le professeur Fatima Tali, médecin-chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Et en fin d'émission, on va retrouver le directeur général du CHU de la Guadeloupe, Pierre Thépeau, pour évoquer avec lui la situation sanitaire dans l'île des Antilles françaises, plus de 4 mois après son incendie donc de ce CHU. C'était le 28 novembre. Une grande partie des bâtiments à Pointe-à-Pitre ont été détruits par le sinistre. Et pour cette émission, on attend bien sûr vos questions, nombreuses, au standard de priorité santé. Le numéro de téléphone, c'est le 33 84 22 75 75.
RFI.
Docteur Philippe Assouli, pour commencer, on va parler de cette nature des cheveux. Pourquoi simplement certaines personnes ont les cheveux secs et d'autres une tendance à avoir plutôt les cheveux gras?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'abord, le caractère ethnique, c'est-à-dire selon que la personne a une ascendance africaine ou a des cheveux sur ascendance européenne ou asiatique, le sébum va être un peu différent et va remonter différemment. Lorsqu'on parle de cheveux africains, on va avoir un sébum qui aura tendance à stagner sur le cuir chevelu et à peu remonter sur le cheveu lui-même, ce qui rend des cheveux particulièrement secs, mais en même temps un cuir chevelu plutôt gras, propice à certaines pathologies comme ce qu'on appelle la dermite séborique, c'est-à-dire une espèce d'état pelliculaire qui démange. Après, il y a des problèmes hormonaux selon le statut hormonal pour une femme. Si elle est avec un excès d'hormones masculines ou de manifestations d'hormones masculines, elle peut avoir des cheveux très gras, un cuir chevelu très gras et éventuellement d'autres signes associés, une acné, éventuellement une hyperpilosité.
Alors, on a parlé de cette nature. Maintenant, pour ce qui est de l'abondance, docteur Philippe Assouli, qu'est-ce qui fait que l'on est plus ou moins chevelu?
Alors, il y a la tendance ethnique à nouveau, c'est-à-dire que ce que l'on sait, c'est que le cheveu des personnes d'ascendance européenne, donc peau blanche, vont avoir, mettons, 150 000 cheveux sur la tête, en moyenne. Sur la tête d'une personne d'ascendance africaine, on est plutôt autour de 90 000. Et chez les Asiatiques, à peu près pareil. Mais avec, de fait, chez un Asiatique qui a des cheveux un peu courts, quelque chose qui est extrêmement visible très très vite, dès qu'il y a une petite perte de cheveux, avec un cuir chevelu qui va être clair, et donc on voit tout de suite ce manque de cheveux. À l'opposé, lorsqu'on a une ascendance africaine et des cheveux crépus, bah, le manque de cheveux se voit assez peu parce que un cheveu qui a une forme hélicoïdale, donc qui pousse en faisant des ronds, va couvrir une grande surface. C'est un avantage, et en même temps, ça permet de protéger de la perte de transpiration, ça va protéger du soleil, ce qui est un avantage par rapport à d'autres types de chevelures.
Alors, au-delà des atteintes du cuir chevelu, on va en parler tout à l'heure, la grande préoccupation quand on parle de la santé des cheveux, c'est bien sûr leur chute. Justement, docteur Philippe Assouli, à partir de quand il y a matière à se préoccuper pour cette chute des cheveux?
La chute en tant que telle, elle est parfois physiologique. on perd tout le temps des cheveux et c'est comme ça que ça se renouvelle.
Et ça se voit sur la brosse, ça se voit et après le shampoing,
voilà,
normalement.
Sur une serviette, sur la brosse, dans le lavabo, etc. Et en moyenne, on considère chez une femme que jusqu'à 100 cheveux par jour qui tombent, on est dans le normal. Mais il n'y a pas de règle absolue, il y a des personnes qui disent « je n'en perds pas » et qui en ont de moins en moins, et inversement. Et puis un rythme saisonnier, il est normal qu'en tout cas, à l'automne, il y ait plutôt plus de chutes de cheveux et moins pendant d'autres périodes. Et l'automne, c'est la période où les laboratoires pharmaceutiques vont vendre des produits anti-chutes parce que, effectivement, c'est le moment où ça se vend.
Et au printemps, les produits pour les régimes.
Voilà.
C'est un autre sujet,
dans le classique.
Dans le marketing. Alors, des facteurs très variés peuvent expliquer la chute des cheveux. Et en fait, quand on s'intéresse à ce sujet, il y a pas mal de mots assez compliqués, moi je le reconnais. Je pense que les auditeurs vont découvrir avec nous ce petit lexique du cheveu, une sorte de petit abécédaire. A comme alopécie, qu'est-ce que ça veut dire l'alopécie? On vient d'en parler.
Alopécie, c'est quand il y a un manque. C'est le manque de cheveux, le manque de poils. La chute de cheveux peut entraîner une alopécie ou ne pas entraîner d'alopécie.
Mais l'alopécie n'est pas la calvitie.
Calvitie, c'est un terme un peu qui n'a pas de sens médical. C'est le fait d'avoir une alopécie qui est localisée sur les zones qu'on appelle androgénodépendantes, donc le sommet du cuir chevelu, et qui a été assez évoluée.
Alors, cette forme de chute des cheveux assez classique chez les hommes, hein, avec ce terme un peu compliqué là encore d'androgénétique, il y a aussi une alopécie particulière. D'ailleurs, c'est l'un des objets de votre spécialité, cette alopécie de traction. Je suis sûre que quand on va en parler à nos auditeurs, ils vont comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette alopécie de traction ?
Le cheveu, il est ancré dans le cuir chevelu avec tout un système d'attaches qui lui permet donc de tenir et puis de se renouveler en permanence. Si on tire sur un cheveu, quelle que soit la méthode, que ce soit en faisant un brushing, que ce soit en faisant des tresses, que ce soit en faisant une attache avec un bandeau qui va tirer vers l'arrière, tous ces systèmes-là vont faire que on va créer une inflammation autour de la racine du cheveu et qu'on va gêner la circulation sanguine qui est en dessous de la papille, c'est-à-dire ce qui alimente ce cheveu. Et tout ça à terme, pas de manière brutale. Alors si c'est une traction très brutale, on peut avoir deux gamins qui se battent dans une cour de récré et il y a un arrachage de cheveux. J'ai eu une gamine qui a eu une mèche de cheveux qui est partie dans la mousse au chocolat au moment où le blender a accroché. Donc là, ça fait une chute brutale. Mais le plus souvent, c'est quelque chose de très insidieux qui va faire que on va avoir de moins en moins de cheveux là où c'est tiré de manière régulière.
Sans pour autant que l'on souffre, docteur Philippe Assoulis, sans que pour autant on ait mal aux cheveux, simplement quand on tire, quand on dit ça fait mal, des fois, on peut avoir des coiffures toute la journée, on s'habitue, on n'a plus mal et pourtant, c'est en train petit à petit de faire son œuvre.
Absolument, ça va grignoter au fur et à mesure. Si ça tire et ça fait mal, c'est encore un signe supplémentaire de souffrance. Mais on n'est pas obligé d'avoir ce signe-là pour qu'il y ait une raréfaction progressive. Et on est dans une forme d'alopécie, de manque de cheveux, qui passe d'un stade non cicatriciel, c'est-à-dire d'une chute de cheveux qui peut... Les cheveux peuvent repousser, si on s'arrête vite, à quelque chose qui devient cicatriciel, c'est-à-dire que c'est définitif ensuite. C'est pour ça qu'il faut se gendarmer, s'arrêter, de manière à pas passer à un stade où il y aura plus de récupération possible.
Alors on voit là, on comprend bien cette agression physique, hein, tout simplement, mais il y a aussi des phénomènes internes et on pense bien sûr aux hormones. C'est très important, docteur Philippe Assoulis, pour comprendre pourquoi à certaines périodes de la vie, on a plus ou moins de cheveux.
Oui, selon la vie, notre rythme va changer également pour ce qui concerne les cheveux. Lorsqu'il existe une grossesse, par exemple, chez une femme, c'est une période où la femme va baigner dans les œstrogènes. Les œstrogènes sont des hormones qui vont augmenter le calibre et la longueur des cheveux. Donc ça fait une chevelure de rêve qui restera inoubliable pendant toute la vie de la femme. Et à l'opposé, lorsque ces hormones œstrogènes vont diminuer de manière brutale après un accouchement, ça va tomber de manière massive. S'il existe une alopécie dite androgénique, cet excès d'hormones masculines ou de captation d'hormones masculines va déclencher au cours de la vie une diminution des cheveux sur le sommet du crâne. Et puis, à la ménopause chez une femme, la carence en œstrogène va faire que, là encore, on va avoir des cheveux qui vont être plus fins, qui vont durer moins longtemps, qui, lorsqu'ils sont remplacés, vont avoir un temps de latence entre le nouveau cheveu et l'ancien qui va être de plus en plus long, donc ça fait moins de cheveux sur la tête, et qui ne peuvent pas atteindre la même longueur que ce qui était possible auparavant. Donc ça fait, vous voyez, des femmes qui vont avoir des cheveux de plus en plus courts, finalement, au moment de la ménopause.
C'est pas simplement qu'une question de mode.
C'est aussi si les femmes pouvaient parfois avoir des cheveux plus longs, elles le feraient même après la ménopause, mais là, ça devient impossible.
Voilà, docteur Philippe Assouli, vous restez avec nous. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs et aux auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et c'est tout d'abord une auditrice, Ndoya, qui est en ligne de Dakar au Sénégal. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour au docteur.
On vous écoute, Ndoya.
En fait, moi j'étais nappie, j'avais les cheveux vraiment crépus. En fait, je fais du Sri Lanka de temps en temps pour voir la longueur de mes cheveux. Mais il est arrivé un moment où je me suis fait défrisser les cheveux. Je dirais à cause de ma cousine qui m'écoute à ce moment, Sophie. Et après, j'ai vu qu'il y a une partie de mes cheveux qui sont... Il y a une partie de mon cuir chevelu là, où les cheveux sont vraiment coupés. Pour le moment, ce que je veux, c'est retrouver mes cheveux qui étaient vraiment crépus. Et je ne sais pas comment y arriver.
Il y a combien de temps, Ndoya, que vous avez fait réaliser ce défrisage?
Ça fait plus de 6 mois.
Plus de 6 mois. Est-ce que vous connaissez la nature des produits qui ont été utilisés pour le faire?
Bon, je connais pas exactement parce que je l'ai fait dans les salons là où on fait les défrisages et vraiment je regrette.
Et quel effet sur votre coiffure? Vos cheveux sont devenus plus cassants? Vous avez perdu des cheveux?
Au côté de mes tempes, il y a une partie où les cheveux sont vraiment rasés. Mais le problème c'est que mes cheveux étaient crépus. Là, mes cheveux sont devenus vraiment lisses. Et moi, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas ce genre de cheveux.
Docteur Philippe Assouli, est-ce que Ndoya va pouvoir retrouver sa nature très frisotée, très crépue, comme elle le souhaite, puisque c'est finalement ce qui lui plaît et qu'elle regrette ce mauvais choix?
Elle récupérera totalement cet aspect-là, puisque cette nature de cheveux est programmée depuis la naissance. Les défrisages sont des produits qui vont modifier la structure du cheveu et vont casser un certain nombre de petits ponts de kératine qui font qu'on passe de quelque chose qui a une forme qui est ce qu'elle est, hélicoïdale, à quelque chose qui se veut raide. Or, quand on casse ces petits ponts, certains se réparent, d'autres ne se réparent pas. À partir du moment où un certain nombre ont été cassés, et là, de manière un peu excessive, il y a des endroits où le cheveu devient avec des petits pointillés de zones où ils sont prêts à se casser. Donc, à l'occasion de tel ou tel traumatisme, d'un coiffage simplement, de lavage des cheveux ou autre, bah, ça va se casser. Et plus on accumule les défrisages, plus on a ce risque de casse. Là, si avec un seul défrisage, il y a eu ce processus de casse de cheveux presque de manière rasée, d'après ce que dit Ndoya, de fait, ça veut dire que vraiment ça a été une brûlure et que le traumatisme a été intense. Donc, il faut ne pas recommencer si on veut récupérer une chevelure qui ne perde pas en épaisseur. Et puis après, il faut attendre parce que le cheveu pousse lentement. On considère que sur peau blanche, le cheveu pousse environ d'un centimètre par mois, mais sur peau noire, on est plutôt autour de 0,7 centimètre par mois. Ça pousse moins vite. Ça pousse moins vite et puis ça se casse plus vite, même naturellement, au-delà de l'histoire du défrisage. Parce qu'il y a des nœuds, parce qu'il y a des endroits où c'est fragilisé, parce que la forme du cheveu, du fait qu'il y a des courbures, sur la zone, c'est un peu comme si on prenait un serpent et qu'on le pliait, ce serpent. Donc la partie qui est à l'extérieur de la courbure, c'est comme des écailles qui se soulèvent et qui vont être des endroits où il y aura plus facilement des traumatismes qui vont abîmer ce cheveu. C'est aussi des endroits où il y a une perte d'eau. Donc les traumatismes liés au défrisage, par exemple, vont être des facteurs qui vont faire que ça va casser ou préparer la casse pour certains moments. Si c'est une seule fois, c'est bon, on va récupérer. S'il y a une succession, on va dans le mur et il y aura une perte au fur et à mesure qui sera définitive d'un certain nombre de cheveux.
Mais si je comprends bien, il vaut mieux les couper très courts pour permettre cette repousse parce que la partie qui a été défrisée, là, elle ne va pas refriser.
La partie qui est abîmée est définitivement abîmée. Après, il y a deux possibilités. Soit on coupe court au niveau de ce qui est le plus court actuellement et puis on attend. Soit on va avoir une période de transition dans laquelle on va couper un peu les mèches, les bouts, etc. Et puis on attend que. Mais ces zones qui sont des zones abîmées vont être très difficiles à coiffer.
Donc Ndoya, patience, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Ils vont revenir, mais patience. Voilà.
D'accord.
Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous au Sénégal. On prend en ligne maintenant Liliane. Elle est au Cameroun, à Yaoundé. Bonjour Liliane.
Bonjour.
On vous écoute Liliane.
Alors... Alors moi, j'ai cheveux crépus qui ne poussent pas, tout simplement. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre sur mes cheveux. Ils ont atteint, je dirais, c'est pas 30 cm maximum, mais ils ne poussent plus depuis très très longtemps. Je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Docteur Philippe Assouli, voilà. Est-ce qu'il y a un moment où les cheveux arrêtent de pousser? Deuxième question, est-ce qu'il y a des produits pour stimuler la pousse?
Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, les cheveux sont programmés pour une certaine longueur. Il y a des personnes qui vont avoir des cheveux extrêmement longs, qui ont des records de longueur de plusieurs mètres, et puis d'autres personnes qui ne pourront jamais avoir des cheveux très très longs. Sur peau noire, on va avoir de manière générale une longueur de cheveux qui sera plutôt inférieure, plus parce qu'il y a de la casse que parce qu'il y a cette impossibilité. Ah, il est difficile de maintenir des cheveux assez longs. Le plus souvent, donc les cheveux poussent pendant une période, on appelle ça la phase anagène, c'est la phase de pousse. Puis après, ça s'arrête de pousser, et ensuite, c'est la phase télogène, c'est la phase de chute. Cette phase anagène, chez une femme, c'est 5-7 ans. Et puis la phase télogène, bon, c'est quelques mois. Si on a atteint le bout de la phase anagène, bah, terminé, ça ne peut pas aller plus loin. Mais le plus souvent, lorsque les femmes n'arrivent pas à avoir une longueur supérieure d'ascendance africaine, c'est qu'il y a de la casse au bout et que ce qui a accumulé un certain nombre de petits traumatismes va, après avoir acquis, mettons, 30 cm ici, ce qui est pas mal, subir le fait que tous les traumatismes qu'il y a pu y avoir, que ce soit le sèche-cheveux, que ce soit à tel moment le soleil, que ce soit la brosse, que ce soit un petit coup de défrisage, que ce soit détresse, etc., etc., tout ça s'accumule sur le cheveu, qui garde en mémoire, qui ne se répare pas. Hein. Le cheveu, c'est une structure qui est morte, c'est vivant dans le cuir chevelu, mais après c'est une structure morte, ça se prend des coups, et puis ces coups se manifestent et font que ça se rompt à un certain niveau.
La deuxième question, c'était sur des produits pour favoriser la repousse, ou une meilleure pousse simplement?
Oui, le seul produit qui a un effet trichogène, qui fait pousser le cheveu, c'est le minoxidil. C'est un médicament qui fait pousser de manière générale le cheveu. Si on met ça sur un avant-bras, on aura plus de poils sur l'avant-bras en question. Si on le met sur le cuir chevelu, on aura plus de cheveux.
C'est purement... Est-ce qu'on risque pas de se retrouver un petit peu barbu?
Alors ça, c'est le grand risque. À la fois, donc c'est le seul produit qui agit, mais c'est un produit qui a un effet suspensif. C'est-à-dire que si on arrête, de toute façon, on redevient ce qu'on devait être de manière prévisible. Et d'autre part, c'est un médicament, c'est-à-dire qu'on peut être sous-dosé, bien dosé, surdosé, et sur peau d'ascendance africaine, le risque, c'est toujours la pilosité. Il y a plus de prédisposition à avoir des poils sur le visage. Donc si on a une dose qui est un peu trop forte, on a ce risque d'avoir une pilosité qui est temporaire, là encore. C'est-à-dire qu'en baissant la dose ou en arrêtant le médicament, on va avoir une chute de ces poils, mais il faut 3 à 6 mois pour que les poils disparaissent. Donc, rentrer dans une perspective de traitement pour des cheveux qui ne vont pas au-delà de 30 cm me paraît excessif. On le fait plutôt pour des problèmes pathologiques. Voilà. Et tout le reste, pas d'intérêt. On essaie de les préserver au maximum, et c'est plutôt dans le préventif que dans le curatif. On mange bien, on met pas de produits particuliers qui vont être caustiques, et on évite d'avoir un effet traumatique sur les cheveux.
Donc on ne les tire pas trop, on prend soin d'eux tout simplement. Voilà Liliane pour ses conseils. Très bonne journée à vous à Yaoundé. On va enchaîner tout de suite. Très bonne journée, merci à vous. Avec Marie-Fleur, elle est au Burkina Faso à Ouagadougou. Bonjour Marie-Fleur.
Bonjour Madame Caroline.
On vous écoute.
Oui, je disais que j'ai des cheveux qui se cassent régulièrement, surtout pendant le froid, la période qu'il fait vraiment froid. Donc, ma question était la suivante. Comment éviter vraiment les cassures en cette période, et des conseils vraiment pratiques pour mieux les entretenir?
Est-ce qu'il y a, docteur Philippe Assouli, des considérations météorologiques pour le cheveu, peut-être dans la nature de l'air, je ne sais pas? Qu'est-ce que c'est justement ce rapport entre des cheveux qui cassent et la température?
Alors, on sait que globalement, pendant la période estivale, on a plutôt plus de pousses de cheveux. D'autre part, lorsque le cheveu d'ascendance africaine est humide, il pousse mieux, il se casse moins. Si on se retrouve dans un climat qui est un climat plus sec ou plus froid, parce que le froid va dessécher aussi, il y a beaucoup plus de risques de casse. D'autre part, il n'y a peut-être pas la même façon de se coiffer, de les protéger, et toutes les frictions vont avoir tendance aussi à casser les cheveux. Donc il faut effectivement les préserver d'autant plus par la façon de les coiffer. Si on tresse, on a évidemment plus de risques que si on les laisse de manière naturelle d'entraîner de la casse. Ensuite, il y a les frottements sur les vêtements. Un frottement qui va avoir un effet de friction, si c'est du coton par exemple, aura plus d'effet traumatique que si c'est qu'un tissu qui va être très doux, que ce soit de la soie ou que ce soit du satin. Si on dort sur quelque chose sur lequel on va frotter, c'est pareil. Ça va également créer de la casse. Donc là encore, pour faire au mieux, pour éviter la casse, il faut plutôt les protéger du froid, plutôt davantage les protéger par des produits, mais c'est toujours très compliqué de trouver des produits qui soient parfaits pour les protéger, que ce soit des produits gras, mais pas trop, qu'il n'y ait pas de graisse minérale à l'intérieur, que ce soit des produits avec des silicones, mais pas des silicones qui restent et qui colleraient sur le cheveu, et puis que ce soit des vêtements protecteurs sur les cheveux qui ne traumatisent pas au moment où on les met. Et puis, il faut, si possible, éviter les tresses qui soient tendues et qui favoriseraient ce fait aussi. C'est-à-dire évidemment, que... par ailleurs, quand on les coiffe toujours de manière humide. C'est-à-dire que si le cheveu est sec et qu'il est coiffé, il va davantage se casser.
D'ailleurs, quand on procède aux tresses, mieux vaut le faire sur cheveux velure plutôt humide.
Oui.
Voilà pour ces conseils, Marie-Fleur. Très bonne journée à vous à Ouagadougou. Et on va prendre... en ligne, du Tchad de Djamena, Abakar. Bonjour, Abakar.
Bonjour, Caroline. Bonjour, tout le monde.
On vous écoute.
Au fait, moi, j'ai commencé par faire mes cheveux très jeunes quand j'étais encore en deuxième année à l'université. Alors, après quelques voyages à l'étranger, je suis retourné au pays et là, j'ai commencé par perdre encore beaucoup plus de cheveux, notamment au niveau du front et au milieu du crâne. Du coup, j'ai cherché à utiliser des crèmes pharmaceutiques et quelques remèdes traditionnels. Mais malheureusement, j'ai pas eu de bons résultats.
Excusez-moi, Bakar, vous avez utilisé quoi comme remède traditionnel? Est-ce que vous connaissiez la composition de ces remèdes?
En fait, comme traditionnel, j'ai utilisé un peu du miel.
Du miel, oui.
Oui, mélangé avec de l'ail écrasé et tout.
Oui.
Mais bon, j'ai pas eu quand même des résultats satisfaisants. Finalement, j'ai tout laissé tomber, je me suis accroché juste à la coiffure.
Et donc.
Alors là, ce que je voudrais savoir, c'est qu'y a-t-il une chance que je récupère un jour mes cheveux, en fait, que les cheveux repoussent, quoi, à nouveau.
Et aujourd'hui, vous êtes comment, Abakar? Il reste encore des touffes de cheveux sur votre crâne ou vous avez plutôt décidé de tout raser?
En fait, je suis dégarni, mon crâne est dégarni par endroit, quoi.
D'accord, par zone.
Ouais.
Docteur Philippe Assouli, donc Abakar, qui a perdu jeune ses cheveux, différentes méthodes maison qui n'ont pas vraiment marché. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, il faudrait voir, évidemment, mais d'après ce qui est décrit, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une atteinte comme ça sur le haut du crâne et une atteinte au niveau des tempes, avec ce recul des tempes, a priori, on est dans une histoire du fait de son âge, du moment où ça a démarré, d'alopécie androgénique, c'est-à-dire la chute de tout un chacun, mais qui est variable selon les familles, selon les personnes. Les produits de type traitement traditionnel sont des produits qui sont souvent avec quelque chose qui est un rubéfiant, c'est-à-dire qui fait chauffer. Là, c'est l'ail, parfois associé à des scarifications. J'espère que vous n'avez pas fait de scarification avec une lame. Et donc, tous ces produits qui vont chauffer vont temporairement stimuler une pousse, mais qui n'est pas durable. Si l'on est gêné, si on est embêté, on passe forcément par un traitement dans ce cas-là. On retombe sur notre histoire de minoxidil de tout à l'heure. Et les deux alternatives de traitement qui existent dans le monde pour lutter contre ce que l'on appelle l'alopécie androgénique, qui n'est pas une maladie, hein, mais quelque chose qui peut gêner les gens, c'est ce minoxidil, traitement local, et un traitement par voie orale qui est le finastéride, qui est un médicament qu'on avale. Et donc après, c'est une affaire de médecin de juger si, fonction de l'évolution, fonction de ce qui est présent comme cheveux, fonction de votre volonté à vous, s'il y a raison ou pas de faire un traitement et quel type de traitement.
Et si on prend ce traitement, c'est à vie?
Et ces traitements sont à vie.
Ah
en
oui.
tout cas, tant que les problèmes existent.
Tant qu'on a envie d'avoir des cheveux.
Voilà. Si on se dit, bon, bah, finalement, maintenant, je préfère raser pour que je ne sois pas embêté par un traitement ou parce que finalement, c'est passé au second ou au troisième plan, on laisse tomber et on laisse tomber tout, effectivement, les cheveux aussi.
Voilà, Abakar, si vous tourniez vers un traitement, ce serait de façon quotidienne et sur le très très long terme. Donc c'est un choix duquel faut vous discutiez tout ça avec votre dermatologue. Voilà ce qu'on pouvait vous dire et très bonne journée au Tchad à N'Djamena. On peut dire, docteur Philippe Assouli, il y a beaucoup, il y a des questions de santé, il y a des questions médicales, il y a aussi beaucoup d'images dans toutes ces affaires de cheveux. Et on peut le dire, aujourd'hui, le crâne rasé, quand même, c'est beaucoup plus admis dans la société que ça ne l'a été il y a même une vingtaine d'années ou une trentaine d'années.
Bah, on est passé du stade de néo-nazi qui était quelque chose d'affreux de pas avoir de cheveux, donc c'était très très marqué à la fois d'un point de vue soit politique, soit si on pense à la libération de Paris avec des femmes que l'on rasait, etc. Donc il y avait une connotation très particulière ou sur des moines tibétains. Donc il y a toujours autour du cheveu quelque chose qui est multiforme et qui signifie quelque chose. Aujourd'hui, et ça on le doit à cette fameuse Coupe du Monde...
1998.
Voilà. Et donc ça a permis en tout cas que d'avoir des... Alors peut-être que justement ils rasaient leur crâne parce que ça évitait d'avoir des possibilités de contrôle antidopage. Mais là je m'avancerai sur rien, c'est ce qui a été dit pour certains cyclistes notamment. Mais le fait de pouvoir maintenant raser ses cheveux, chez un homme en tout cas, sans que ce soit stigmatisant, a solutionné beaucoup de choses pour les hommes, beaucoup moins pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont eu des pertes de la même manière que le fait qu'il y ait de la barbe a diminué les ventes de rasoirs.
Voilà, docteur Philippe Assouli, on va en reparler, hein, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après une petite pause musicale.
She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why, don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead, darling.
Give me that head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. Blow it, show it, long as God can do it, my hair. Let it fly in the breeze and get caught in the trees. Give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees. A nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, waxing, waxing.
Knotted, polka-dotted, twisted, feet-a-braided,
dotted, rowered,
and confetti,
tangled,
tangled,
mangled,
and spaghetti.
Hey, hey!
Air, le titre qui donne son nom à la comédie musicale Air, porté à l'écran en 1979 par Milos Forman. On vous retrouve, docteur Philippe Assouli, dermatologue spécialiste du cuir chevelu au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à Paris, toujours pour parler de cette fameuse santé des cheveux, signe extérieur de santé, de beauté parfois, mais pas toujours, parure sous l'influence de la mode. Justement, docteur Assouli, est-ce qu'il y a des modes qui font peut-être plus que d'autres, particulièrement mal aux cheveux, qui sont tout simplement dangereuses pour la santé capillaire? Ce qui vient tout de suite à l'esprit, bien sûr, c'est le défrisage.
Ouais, malheureusement, effectivement, cette mode qui est en train peut-être de diminuer maintenant, heureusement, est une mode délétère pour le cheveu. Et cette tendance, alors qu'on a vu dans tout un tas de clips, qu'on voit donc dans des choses qui vont attirer ou dans des films, qui est quand même très afro-américaine, a fait que des femmes qui voulaient suivre cette mode et qui tiraient leurs cheveux en se disant bah voilà, puisqu'il y a des personnes qui sont superbes comme ça, je vais faire la même chose. Or tout le monde ne peut pas se permettre parce que le cheveu va être plus ou moins fragile, et d'autre part, de manière statistique en tout cas, ça crée des dégâts et qui sont irréversibles pour un bon nombre d'entre eux.
Alors on va prendre tout de suite la direction du Sénégal. On vous retrouve, professeur Fatima Tali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin-chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Alors, chez vous, en consultation, quels sont les principaux motifs pour les patients concernant leurs cheveux? Pourquoi, essentiellement, viennent-ils vous voir, professeur Fatima Tali?
Bonjour Caroline, bonjour aux auditeurs de la vie, bonjour à Philippe. Alors, les principaux motifs de consultation, c'est essentiellement l'alopécie, c'est-à-dire la chute de cheveux. Et cette chute de cheveux est associée ou non à une maladie de cuir chevelu également, dans le cadre de pathologies inflammatoires plus fréquentes sous peau noire. Je veux parler du lupus discoïde ou bien des maladies infectieuses telles que les teintes de cuir chevelu qui sont relativement fréquentes chez l'adulte par rapport à ce qui est rapporté dans la littérature. Mais également d'autres types d'alopécie, les alopécies de traction, les alopécies qui sont liées aux produits défrisants ou bien au tissage ou au lissage, les alopécies iatrogènes en quelque sorte.
Et justement, est-ce qu'il s'agit plutôt de patients ou de patientes? Ce sont davantage des femmes ou des hommes qui viennent consulter, professeur Fatima Tali?
Alors, c'est plus des femmes que des hommes. Les hommes consultent rarement pour les pathologies des cheveux. Par contre, pour les pathologies du cuir chevelu, c'est-à-dire toutes les maladies de la peau qui peuvent se localiser également au niveau du cuir chevelu, on a approximativement le même ratio. Mais pour tout ce qui concerne la chute de cheveux, c'est bien sûr une prédominance féminine.
Est-ce qu'il n'y a pas justement, par rapport à ce dont on vient de parler avec le docteur Assouli, un gros travail de prévention et d'éducation à faire, notamment chez les femmes, et d'ailleurs pour leurs petites filles, pour éviter ces tressages, par exemple, trop agressifs?
Parfaitement, c'est surtout la prévention. Déjà, les mesures d'hygiène, puisqu'on sait que les teignes du cuir chevelu sont contagieuses, et c'est l'utilisation de peignes, de brosses qui sont communs, peuvent être des facteurs favorisants. Et en particulier au niveau des salons de coiffure, où c'est les mêmes peignes et les mêmes brosses qu'on utilise pour plusieurs clientes. Et à la maison, c'est essayer d'avoir une hygiène de cuir chevelu qui permet de diminuer toutes ces pathologies infectieuses. En particulier
justement du côté des conseils au-delà justement de cette atteinte de teigne, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux personnes qui viennent en consultation pour l'entretien des cheveux crépus? On entendait tout à l'heure de nombreuses auditrices nous dire mes cheveux ont du mal à pousser. Là, on a dit pas facile de répondre à cette question, mais en tout cas, mes cheveux cassent. Qu'est-ce que vous leur répondez, Fatima Tali, quand elles vous disent qu'est-ce que je peux faire pour arrêter le phénomène?
En réalité, les cheveux sont très, très agressés, extrêmement agressés, déjà par des produits chimiques de défrisage, par des traumatismes dans le cadre de lissage et des traumatismes physiques avec une chaleur excessive au niveau des casques. Déjà, si on supprimait tous ces facteurs favorisants, toutes ces agressions sur les cheveux, je pense que la nature des cheveux est de pousser naturellement. Et en plus, d'autres conseils tels que humidifier les cheveux, tels que faire des bains d'huile régulièrement. En somme, l'entretien des cheveux permet de retrouver une pousse tout à fait normale. Mais malheureusement, avec ce qu'on voit comme agression des tresses qui sont très serrées, très tendues, et le lissage, on tire, on agresse le cuir chevelu des cheveux, ce n'est pas des facteurs qui favorisent une pousse normale des cheveux crépus.
Merci beaucoup, professeur Fatima Tali. Je rappelle que vous êtes médecin-chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar, également enseignant-chercheur à la faculté de médecine, université Cheikh Anta Diop de Dakar. Très bonne journée à vous au Sénégal. Merci à vous.
Bonne journée.
On vous retrouve, docteur Philippe Assouli. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui peut interférer dans la chute des cheveux. C'est le stress, des gros stress. Il y a des personnes qui peuvent changer de chevelure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe, les gens dont les cheveux blanchissent ou des gens qui ont une chute subite de cheveux?
On considère que ça n'a pas de réelle valeur. C'est-à-dire que c'est très, très difficile. Il n'y a aucune étude qui montre qu'en tout cas, le stress déclenche de la chute de cheveux. Il y a souvent, comme dans un billard à deux ou trois bandes, un effet qui va être, par exemple, vous avez un gros stress, vous arrêtez de manger, ou bien vous allez avoir une vie complètement différente, vous n'allez pas vous laver les cheveux de la même manière, etc. Et ça aura une influence par ce biais-là.
Des facteurs croisés.
Voilà. Mais le stress en tant que tel n'est pas responsable. Pour ce qui est du blanchiment brutal des cheveux, ça correspond à ce qu'on appelle une pelade. Et lorsque les gens ont des cheveux poivre et sel et qu'il y a une pelade, la cible privilégiée, c'est le cheveu pigmenté et pas le cheveu blanc. Donc les cheveux noirs peuvent tomber, restent les cheveux blancs qui donnent un effet de volume bien supérieur aux cheveux noirs. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de disparition des cheveux, mais qu'ils sont tous blanchis. Et simplement, lorsqu'il y a par exemple un tiers de cheveux blancs, deux tiers de cheveux noirs, le tiers de cheveux blancs qui reste donne l'impression qu'il y a une belle chevelure. Et les cheveux noirs sont tombés. C'est ce qui s'est passé pour Marie-Antoinette et ce qu'on a appelé le syndrome Marie-Antoinette. Avant d'aller sur l'échafaud, elle a eu une chute de cheveux, mais ça s'est fait au cours de sa vie plusieurs fois. Quand on reprend l'histoire de Marie-Antoinette, elle a eu des épisodes de pelade, mais en tout cas, pendant le moment où elle est restée en prison et qu'elle a été ensuite montée sur l'échafaud, au moment où elle est montée sur l'échafaud, tous les cheveux noirs étaient tombés et donc elle était qu'avec des cheveux blancs.
Et on en a eu connaissance, même si à l'époque, toutes les femmes portaient des perruques. Il y a une littérature là-dessus.
Ça a été décrit, etc.
Alors, on a parlé tout à l'heure de l'origine régionale, des cheveux, cheveux crépus, cheveux lisses, cheveux européens. En ce qui concerne le facteur héréditaire, certains garçons adolescents regardent leur père avec angoisse en disant « Est-ce que c'est vraiment ça qui m'attend ? Est-ce qu'il y a une forme d'hérédité, par exemple, père-fils, sur la répartition des cheveux ?»
Il y a une forme d'hérédité, elle est pas systématique, mais il y a un risque relatif nettement augmenté lorsque le père a une alopécie androgénétique de transmettre à son fils. Mais également, c'est valable dans l'autre sens, c'est-à-dire que une mère peut transmettre à son fils ce risque-là d'une manière un peu inférieure, semble-t-il, et pour une femme, le risque existe de la part de son père et de la part de sa mère. On a une moitié de gènes de chaque côté qui peuvent favoriser. Mais on peut avoir une ascendance extrêmement chargée d'alopécie androgénique et avoir plein de cheveux, et inversement. Donc le risque n'a rien de systématique.
Faut bien tirer au sort entre les deux. On va reprendre une auditrice en ligne, une auditrice de Priorité Santé, en ligne du Congo-Brazzaville, précisément de Pointe-Noire. C'est Michel qui est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour docteur.
On vous écoute Michel.
Voilà, moi j'ai un souci, j'ai beaucoup de cheveux, alors j'ai vraiment les cheveux jaunés, mais le souci c'est que j'ai des pellicules. J'ai des pellicules de quantité énorme, si bien quand je me fais des tresses, les tresses ne mettent pas du temps parce que ça démange vraiment les pellicules, ça démange et ça dérange. J'ai utilisé des shampoings anti-pelliculaires, j'utilise des astuces qu'on trouve sur Internet, comment se débarrasser des pellicules, mais rien. Entre-temps, je faisais des bains d'huile et j'ai compris qu'en faisant des bains d'huile, les pellicules disparaissent. Mais après, les cheveux reviennent au naturel. Parce qu'il faut changer un peu le coiffe de temps en temps. Les pellicules aussi reviennent. Donc ça me dérange et ça m'énerve. Je ne sais plus quoi faire.
Docteur voilà. Philippe Assouli, qu'est-ce qu'on peut dire à Michel
Pour qu'elle s'énerve plus.
Oui, surtout qu'elle se débarrasse de ses pellicules, au moins essayer de s'en débarrasser. Il y a différentes sortes de pellicules déjà. Tout le monde n'a pas les mêmes pellicules.
Alors tout le monde n'a pas les mêmes pellicules, mais c'est vrai que sur peau d'ascendance africaine, le risque d'avoir des pellicules est très nettement augmenté. C'est-à-dire qu'on considère que 80 ou 90% des personnes d'ascendance africaine ont une dermite séborrhéique. La dermite séborrhéique, c'est un état inflammatoire avec des pellicules. Les pellicules, c'est pas de la sécheresse. C'est-à-dire que c'est une mauvaise élimination des couches d'épiderme et un épiderme qui se renouvelle trop vite. Donc il y a une accélération du cycle de fabrication de l'épiderme. Et ces pellicules qui s'accumulent du coup à la surface entretiennent ce processus aussi parce que dans ces pellicules, il y a un champignon qu'on appelle le Malassezia. Ce Malassezia, c'est un champignon que tout le monde héberge sur la tête, mais ce champignon va se développer dans certaines conditions, et en particulier s'il est dans un climat chaud et humide. Donc le fait d'avoir des cheveux abondants favorise ce fait, le fait que les cheveux soient crépus favorise ce fait, le fait que le sébum reste stagné en dessous favorise ce fait, et si on met des produits gras, on va dissimuler les pellicules, elles vont rester comme ça un peu collées et invisibles, mais ça n'améliore pas du tout, au contraire, ça favorise les futures pellicules. Donc il faut mettre des shampoings, il faut faire des shampoings assez souvent, mettons deux fois par semaine pendant une période, puis une fois par semaine au minimum, et il faut utiliser un antipelliculaire qui est en fait le plus souvent un anti-champignon. Et dans les antipelliculaires, vous avez des molécules qui sont variées. Donc si un type de molécule n'a pas fonctionné, alors ça va être le kétoconazole, ça va être la pyrithione zinc, ça va être, bon bref, il faut regarder la composition. Si un des produits n'a pas fonctionné, ben on utilise un autre et puis on va comme ça s'en débarrasser. Lorsque c'est très enflammé, il faut voir un dermatologue et qui va prescrire dans ce cas-là un produit qui contient de la cortisone par exemple, qui va permettre de calmer l'inflammation et de ralentir ce cycle de l'épiderme. Donc on solutionne toujours, mais il faut partir sur une bonne base et après trouver les moyens d'entretenir au mieux.
Alors voilà, Michel, pour ce conseil, ce qu'on a retenu en tout cas, c'est peut-être qu'il y a vraiment matière à aller voir un dermatologue qui pourra vous donner tous les conseils. Arrêtez d'utiliser un petit peu n'importe quel produit, là d'utiliser un produit ciblé bien à votre problème de cheveux. Très bonne journée à vous, à Pointe-Noire. On va tout de suite entrer en contact avec Miguel. Miguel est avec nous, lui aussi, en ligne du Congo-Brazzaville, mais de Brazzaville. Bonjour Miguel.
Et bonjour Caroline.
On vous écoute.
Bon, ma question est celle-ci. Est-ce que appliquer les genres du genre de fruits ou légumes ou encore de l'aloe vera peut booster les cheveux ou peut-être soigner une anomalie au niveau des cheveux?
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé, Miguel, d'utiliser des fruits ou des légumes sur votre chevelure?
Bon, une fois, j'ai déjà essayé de l'aloe vera parce que je m'étais défrisé les cheveux pour une occasion. Donc, j'avais des brûlures et j'avais essayé de l'aloe vera et ça m'avait détendu.
Ça vous avait peut-être apaisé le cuir chevelu Qu'est-ce qu'on peut dire, docteur Assouli, à Miguel qui essaye d'utiliser a priori des produits naturels pour d'éventuels problèmes capillaires? Déjà, on l'a compris, des frisages à éviter, ça on a bien compris la leçon. Ensuite, est-ce qu'il y a des produits de tous les jours qui ont des vertus apaisantes pour les cheveux, pour le cuir chevelu bien sûr?
Alors c'est normalement le but des laboratoires pharmaceutiques, c'est un énorme marché, hein, le cheveu, et en particulier le cheveu africain, où les gens dépensent beaucoup d'argent. On considère que les gens dépensent 3 fois plus à 5 fois plus d'argent que sur peau blanche. Et du coup, on se méfie quand même de produits qui sont dits naturels et qui peuvent avoir un effet toxique ou allergisant. En pratique, les fruits et les légumes n'ont pas de vertu sur le cuir chevelu connu. L'aloe vera a un effet anti-inflammatoire qui peut calmer une irritation, mais ça s'arrête là.
Et on dit souvent, l'avocat c'est bon, il nous reste une vingtaine de secondes. Est-ce que c'est bon un masque à l'avocat, par exemple, sur la chevelure?
Le gras de l'avocat peut avoir un effet positif sur la texture du cheveu temporairement, mais ça n'ira pas plus loin que ça.
Et le miel, on entendait tout à l'heure parler du miel. Souvent, ça revient aussi dans des... Ça ressemble plus à des recettes de cuisine qu'à des recettes cosmétiques.
Ouais, ça sent bon déjà. Mais le miel, non. Alors, il y a des vertus anti-inflammatoires ou anti-infectieuses du miel, mais c'est tout.
Merci beaucoup, hein. Merci docteur Philippe Assouli pour toutes ces explications, votre éclairage sur cette santé des cheveux. Je rappelle que vous êtes dermatologue spécialiste du cuir chevelu au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis à Paris, pour parler bien sûr de cette santé des cheveux. Plus de 4 mois sont écoulés depuis le 28 novembre, hein, depuis qu'une partie du CHU de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre a été ravagée par un incendie. Alors des travaux pour reconstruire le complexe médical, eh bien ces travaux sont loin d'être terminés, avec sur place forcément des conséquences pour la prise en charge hospitalière des habitants de cette région d'outre-mer. En ligne avec nous pour en parler, Pierre Thépot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du CHU de la Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez, Pierre Thépot, décrire aujourd'hui l'étendue des dégâts quand les patients arrivent au CHU? Qu'est-ce qu'ils ont devant eux?
Alors, quand ils arrivent au CHU, les patients se rendent compte d'un événement grave s'est passé puisque les urgences ont été fermées, elles ont été transférées là où il y avait les consultations externes. Et puis deuxième changement très important, c'est que notre maternité niveau 3, a été transférée sur la polyclinique de la Guadeloupe, qui se situe à quelques centaines de mètres du CHU. Et puis le troisième changement, c'est que nous n'avons plus aujourd'hui de bloc opératoire fonctionnel et que on est en train de faire venir des blocs mobiles, mais toute l'activité programmée est aujourd'hui assurée sur une autre clinique qu'on appelle la clinique des Eaux Claires, à quelques kilomètres de là, où toute activité programmée chirurgicale est faite.
Ça veut dire que quelle proportion aujourd'hui des bâtiments est encore utilisable, Pierre Thépot?
On a aujourd'hui récupéré à peu près 80% de nos capacités d'hospitalisation d'avant le sinistre. dans le CHU lui-même, on a pu reprendre l'activité sur pas mal de services et on doit procéder à des nettoyages en profondeur.
Alors des nettoyages parce qu'effectivement, après bien sûr le feu, il y a eu des émanations particulièrement toxiques. Il y a même eu des cas de malaise, un droit de retrait de la part d'un personnel soignant. Donc on peut le dire, hein, véritablement une période de crise. Comment ça se passe aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois ?
D'abord, on a eu à un moment donné dû arrêter tout le système de traitement d'air. Et du coup, ben, ces arrêts ont pu eux aussi contribuer à ce qui est par moment certains malaises. Donc du coup, aujourd'hui, les mesures qu'on a prises, c'est qu'on a fait venir un système de traitement d'air mobile, ce qui fait qu'aujourd'hui, les malaises, il n'y en a plus. On a procédé à des nettoyages, notamment du laboratoire, et puis on procède à des nettoyages de notre matériel biomédical. Il n'empêche que nous sommes engagés dans un plan de réorganisation du CHU.
Dans combien de temps le CHU va-t-il à nouveau être totalement opérationnel quand 100% des personnes pourront justement de vos patients y être admis? Quand est-ce que le CHU redeviendra le CHU?
Alors, je pense que dans 5 ans, nous aurons un nouveau CHU qui sera complètement sorti de terre. Et donc, le CHU qui était au fond sur un site unique, eh bien, dans les semaines, dans les mois à venir, il va rester un multisite avec, sans doute, pour de longs mois encore, des activités qui vont être délocalisées sur les autres établissements, notamment les établissements publics et privés de la région Pointe-à-Pitre.
Vous utilisez le terme de délocaliser. Est-ce que l'on ne peut pas dire plutôt, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, désorganiser? En tout cas, quels sont les retours de la part des patients et des personnels soignants? Est-ce qu'aujourd'hui c'est apaisé ou est-ce qu'il y a encore une certaine insatisfaction, voire un sentiment de grogne?
Il y a surtout, je pense, une perte de repère. C'est pas facile de quitter l'endroit où on travaille et d'aller travailler sur un site que l'on connaît pas.
Est-ce que les patients, aujourd'hui, quand ils ont un problème de santé, ils s'y retrouvent?
Alors on a effectivement, de temps en temps, des patients qui disent « Est-ce que je peux encore me faire soigner au CHU ?» Alors moi je le dis très clairement, oui. C'est-à-dire que lorsque un patient arrive pour un problème aigu, il va arriver aux urgences et il va être ensuite traité soit ici, soit dans le cadre de la filière qu'on est en train de construire. Après, c'est pour cela qu'on a créé une plateforme téléphonique. Ça permet d'orienter, de dire voilà, vous avez ce type de souci, il faut aller à tel endroit ou faire telle ou telle démarche.
Pierre Thépot, une dernière question. Vous parlez de la réorganisation locale. Pour ce qui est de la réponse de Paris des deux ministères concernés, donc le ministère des Outre-mer, Annick Girardin, celui des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, est-ce que la réponse de la métropole a été à la hauteur de l'enjeu?
Moi, je dois dire que l'engagement de l'État, sous toutes ses composantes à nos côtés, a été exemplaire. C'est une crise hors norme et... Je pense que tout le monde est très mobilisé et je n'oublie pas les élus qui jouent un rôle très important de pédagogie auprès de leurs électeurs pour redonner courage et confiance à la population.
Merci beaucoup à Pierre Thépot. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CHU de la Guadeloupe. Merci et au revoir.
Merci, au revoir.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Demain, nous rediffuserons Priorité Santé consacrée aux accouchements traumatiques. Et vous pouvez bien sûr nous réécouter en podcast sur notre application Pure Radio, sur le site internet de RFI.fr aussi dans la rubrique Émissions. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Profitez d'une assurance santé complète et efficace où que vous soyez. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.